Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 4. La révolution de 987 et l'avènement des Capétiens. Le Xe siècle est probablement le plus atroce de notre histoire. Tout ce qu'on avait vu, à la chute de Rome et pendant l'agonie des Mérovingiens, fut dépassé. Seule, la lutte de tous les jours, la nécessité de vivre, qui ne laisse même plus le temps pour les regrets, empêcha les hommes de tomber dans le désespoir. Avec la décadence de l'autorité carolingienne, les calamités recommençaient. Au sud, les Sarrasins avaient reparu. Et puis, un autre fléau était venu, les Normands, qui, après avoir pillé les côtes, s'enhardissaient, remonta les fleuves, brûla les villes et dévasta le pays. L'impuissance des Carolingiens à repousser ces envahisseurs hâta la dissolution générale. Désormais, le peuple cessa de compter sur le roi. Le pouvoir royal devint fictif. L'État est en faillite. Personne ne lui obéit plus. On cherche la protection où l'on peut. Alors les hauts fonctionnaires se rendent indépendants. Le système féodal, que Charlemagne avait régularisé et discipliné, s'affranchit et produit un pullulement de souveraineté. L'autorité publique s'est évanouie. C'est le chaos social et politique. Plus de Francie, ni de France. 100, 1000 autorités locales, au hasard des circonstances, prennent le pouvoir. Le gouverneur de province, le gouverneur de canton, le duc, le comte, de moindres personnages, s'établissent dans leur charge, les lèguent à leurs enfants, se comportent en vrais souverains. C'est comme si, de nos jours, des commandants de corps d'armée, des préfets, des sous-préfets, devenaient héréditaires. Ailleurs, ce furent des évêques, des abbés, qui recueillirent la succession de l'État, tombé dans l'impuissance. Telle fut l'origine des seigneuries ecclésiastiques. Ce serait une erreur de croire que les populations eussent été hostiles à ce morcellement de la souveraineté. Tout ce qu'elles demandaient, c'était des défenseurs. La féodalité, issue du vieux patronat, fondée sur la réciprocité des services, naissait de l'anarchie et du besoin d'un gouvernement, comme au temps de l'humanité primitive. Représentons-nous des hommes dont la vie était menacée tous les jours, qui fuyaient les pirates normands et les bandits de toute espèce, dont les maisons étaient brûlées et les terres ravagées. Dès qu'un individu puissant et vigoureux s'offrait pour protéger les personnes et les biens, on était trop heureux de se livrer à lui, jusqu'au servage, préférable à une existence de bête traquée. De quel prix était la liberté quand la ruine et la mort menaçaient à toute heure et partout? En rendant des services, dont le plus apprécié était la défense de la sécurité publique, le seigneur féodal légitima son usurpation. Parfois même, il promettait des garanties particulières à ceux qui reconnaissaient son autorité. Par là dura l'esprit des franchises provinciales et municipales destinées à une renaissance prochaine. Tout cela se fit peu à peu, spontanément, sans méthode, avec la plus grande diversité. Ainsi naquit une multitude de monarchies locales fondées sur un consentement donné par la détresse. Les abus de la féodalité ne furent sentis que plus tard, quand les conditions eurent changé, quand l'ordre commença à revenir, et les abus ne s'en développèrent aussi qu'à la longue, la valeur du service ayant diminué et le prix que l'on payait étant resté le même. C'est ce que nous voyons de nos jours pour le régime capitaliste. Qui se souvient des premiers actionnaires qui ont risqué leur argent pour construire des chemins de fer? À ce moment-là, ils ont été indispensables. Depuis, par voie d'héritage ou d'acquisition, leurs droits ont passé à d'autres, qui ont l'air de parasites. Il en fut de même des droits féodaux et des charges qu'ils avaient pour contrepartie. Transformés, usés par les siècles, les droits féodaux n'ont disparu tout à fait qu'en 1789, ce qui laisse une belle marge au capitalisme de notre temps. Mais de même que la création des chemins de fer par des sociétés privées fut saluée comme un progrès, ce fut un progrès, au Xe siècle, de vivre à l'abri d'un château fort. Les donjons abattus plus tard, avec rage, avaient été construits d'abord avec le zèle que l'on met à élever des fortifications contre l'ennemi. Cependant, deux conséquences allaient sortir de la féodalité. En premier lieu, un très grave danger pour l'avenir de la France. L'unité était détruite. Ce qui se formait un peu partout, c'était des États. Du plus grand au plus petit, chacun s'était installé dans son domaine comme dans une propriété privée. De là, tant de guerres de voisin à voisin. Et puis, par héritage ou par mariage, les provinces entières pouvaient aller à des étrangers. Ce fut la cause, l'occasion ou le prétexte de beaucoup d'autres guerres, et en particulier de la guerre de Cent Ans. D'autre part, ces États s'étaient formés, naturellement, aux endroits indiqués par les géographies, ceux où les hommes avaient une communauté d'intérêts l'habitude de se fréquenter et de vivre ensemble, parfois de vieilles traditions héritées des tribus gauloises. Pour ces raisons, quelques-unes des nouvelles dynasties enfoncèrent de fortes racines dans certaines provinces, ce qui mit le remède à côté du mal. Une de ces familles deviendrait un jour assez forte pour se placer au-dessus des autres et pour reconstituer l'unité française dont l'idée s'était obscurcie sans être jamais tout à fait morte. Durant cet épouvantable chaos du Xe siècle, il est curieux d'observer avec quelle peine les institutions meurent et combien les nouvelles sont lentes à grandir. Les Carolingiens avaient beau rester soumis à l'élection ou au simulacre de l'élection, Pépin le Bref ayant été prince élu, ils avaient beau avoir perdu l'estime publique, au point d'être déposés, comme il advint à Charles le Gros, pour son incapacité et ses lâchetés, ils gardaient ce prestige de la légitimité par lequel s'étaient prolongés les Mérovingiens. Et d'autre part, l'ascension de la famille, qui était destinée à les remplacer, fut lente. Parmi ces souverainetés locales, qui avaient poussé partout, il en était de plus importante que d'autres. Duc de France et de Bourgogne, comte de Flandre et de Toulouse, ce sont les grands feudataires. Ils mettent en échec la royauté carolingienne. Ils sont vis-à-vis d'elle comme de grands électeurs indociles. Ils lui parlent un langage républicain. Ils lui disent que la loi se fait par la constitution du roi et le consentement du peuple. Le droit, la justice, la liberté sont invoqués contre la monarchie. Cependant, les plus habiles et les plus puissants de ces chefs font d'un État pour assurer leur domination personnelle, et ils aperçoivent la possibilité de se mettre à la place des Carolingiens. C'est pourquoi le principe de l'élection triomphe. Il affaiblit la royauté et autorise toutes les ambitions. Plus tard, la royauté allemande restera soumise au régime électif, tandis que la nouvelle monarchie française se fortifiera par l'hérédité. On ne s'explique pas le succès de la maison capétienne si l'on ne tient pas compte de ses conditions politiques. Mais comme les Carolingiens, les Capétiens devront leur fortune au service qu'ils ont rendu. Robert le Fort, le vrai fondateur de la maison, s'est battu 10 ans contre les Normands et il est mort au champ d'honneur. Robert le Fort était certainement un homme nouveau, d'origine modeste puisque la légende lui donne pour père un boucher. Son fils Eudes défend héroïquement Paris contre les mêmes adversaires, tandis que Charles le Gros se couvre de honte. Charles le Gros déposé, Eudes est candidat à une sorte de consulat à vie. Le duc de France fut élu à Compiègne en 888. Il faudra encore 100 ans pour qu'un autre Robertinien, un autre duc de France, devienne vraiment roi. Eudes, après avoir essayé d'étendre son autorité, comprit que les temps n'étaient pas mûrs. Une opposition légitimiste subsisterait dans l'Est. Un descendant de Charlemagne la raillait et les petits princes qui alarmaient la nouvelle grandeur du duc de France, leur égal de la veille, soutenaient les Carolingiens pour se consolider eux-mêmes. Eudes trouva meilleur de ne pas s'entêter. Il réservait l'avenir. Il se réconcilia avec Charles le Simple et transigea avec lui. À sa mort, le Carolingien prendrait sa succession et retrouverait son trône. Cette restauration eut lieu en effet et ce fut une partie politique habilement jouée. Sans la prudence et la perspicacité d'Eudes, il est probable que les ducs de France eussent été écrasés par une coalition. Pendant près d'un siècle, ils vont préparer leur accession au trône. Nous ne sommes pas assez habitués à penser au temps et au concours de circonstances qu'il a fallu pour amener les grands événements de l'histoire. Presque rien de grand ne se fait vite. Il faut vaincre des traditions, des intérêts. Et il faut aussi pouvoir durer. Si les Robertiniens, descendants de Robert le Fort, ne s'étaient maintenus solidement dans leur domaine, si la mort était venue frapper leur famille, comme elle a frappé par exemple la famille de Louis XIV, il n'y aurait pas eu de monarchie capétienne. Et les témoins de la longue rivalité qui mit aux prises les Robertiniens et les Carolingiens ne pouvaient savoir non plus de quel côté pencherait la balance. Un moment, il fut permis de croire que l'héritier de Charlemagne l'emporterait. À force de patience, à force d'attendre le moment sûr, les Robertiniens avaient failli tout gâter. Hugues le Grand se contentait de protéger les Carolingiens, de les faire rois, comme les Pipinides, autrefois, s'étaient abrités derrière les Mérovingiens fainéants. Quand ce faiseur de roi mourut, le Carolingien Lothaire était un enfant, mais cet enfant allait être un homme ambitieux et actif. Hugues le Grand était mort en 956. Il laissait son duché à Hugues Capet. Il s'en fallait de beaucoup que celui-ci n'eût qu'à prendre la couronne royale. Avec Lothaire, la vieille dynastie se ranime. Lothaire veut ressaisir l'autorité, reconquérir son royaume. Il retrouve son prestige en délivrant Paris d'une invasion allemande. S'il eût vécu davantage, qui sait s'il n'étouffait pas la chance des Capétiens. Il mourut, quelques-uns disent empoisonné, en 886. Son fils Louis ne régna qu'un an et fut tué dans un accident de chasse. Il n'y avait plus de Carolingien qu'un lointain collatéral, Charles de Lorraine. Hugues Capet tenait l'occasion que sa famille attendait depuis la mort d'Eudes et lui-même depuis 30 années. L'affaire n'alla pas toute seule. Hugues trouva heureusement un allié. Adal Béron, archevêque de Reims, avait eu de graves difficultés avec Lothaire, qu'il avait accusé de trahison. Son procès durait encore. Hugues fit proclamer son innocence à l'assemblée de Senlis et, séance tenante, Adal Béron acquitté proposa que le duc de France fût nommé roi à titre provisoire. Une autre assemblée fut convoquée à Senlis pour l'élection définitive. Adal Béron soutint que Charles de Lorraine n'avait pas de droit au trône pour diverses raisons, dont la plus importante fut qu'il était vassal du roi de Germanie. Ainsi, Hugues Capet fut élu en qualité de prince national, 987. Car ce fut bien une élection. Hugues s'était assuré les voix et Adal Béron l'avait présenté comme le candidat le meilleur, celui qui serait le défenseur de la chose publique et des choses privées. Hugues ne négligea aucune chance, aucun argument, aucun moyen. Il y avait d'ailleurs une centaine d'années que la couronne était devenue élective, non seulement en France, mais en Lotharingie, en Italie et en Allemagne, où elle devait le rester. On avait acquis la pratique de ces élections. Cependant, celle de Hugues fut loin d'être unanime. Plusieurs des grands feudataires, les comtes de Flandre, de Troyes et de Toulouse, les ducs d'Aquitaine et quelques archevêques ne la reconnurent pas. Il était clair que la nouvelle dynastie aurait de longues luttes à soutenir avant de reconstituer l'unité du royaume. Née du régime féodal, la royauté capétienne en avait le faible et le fort. Le faible, c'était que la France restait divisée en souverainetés multiples. Le fort, c'était que les Capétiens, ducs héréditaires dans les domaines de l'Île-de-France, suzerains dans le Maine, la Touraine, l'Anjou, étaient solidement installés au cœur du pays. Ils n'auraient plus qu'à s'affranchir de l'élection pour s'étendre et se développer, ce qui se fit de la manière la plus simple du monde. Hugues Capet, ayant tout de suite associé au trône son fils aîné, l'élection du successeur eut lieu du vivant du roi. Elle ne fut plus qu'un simulacre qui ne comportait aucun risque. Il avait donc fallu plus de 500 ans pour que l'usage absurde des partages fût abandonné, et il fallut encore de longues années avant que le principe héréditaire triomphât tout à fait du principe électif. La succession de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, conquête inaperçue des contemporains, allait permettre de refaire la France. Le bon sens des Capétiens, qui devait être, à de rares exceptions près, la qualité dominante de leur race, ne serait pas moins utile à cette œuvre de longue haleine. Rendre service. C'était la devise de la maison depuis Robert le Fort. Avancer pas à pas, prudemment, consolider chaque progrès, compter les deniers, se garder des ambitions excessives, des entreprises chimériques, ce fut son autre trait, avec un sentiment d'honorabilité bourgeoise, plus que princière, et le goût de l'administration. La France sensée, équilibrée, se reconnut dans cette famille qui aimait son métier et qui avait le don de s'instruire par l'expérience. Il semble que les Capétiens aient eu devant les yeux les fautes de leurs prédécesseurs pour ne pas les recommencer. Les descendants de Charlemagne, de Charles le Chauve à Lothaire, s'étaient épuisés à reconstituer l'Empire. Ce fut également la manie des empereurs germaniques. Les Capétiens étaient des réalistes. Ils se rendaient un compte exact de leurs forces. Ils se gardèrent à leur début d'inquiéter personne. La race de Hugues Capet, après avoir mis 3 générations à prendre la couronne, régnera pendant 8 siècles. L'avenir de la France est assuré par l'avènement de la monarchie nationale. À cette date de 987, véritablement la plus importante de notre histoire, il est déjà plus de 1000 ans que César a conquis la Gaule. Entre la conquête romaine et la fondation de la monarchie française, il s'est écoulé plus de temps. Il s'est passé peut-être plus d'événements que de 987 à nos jours. Au cours de ces 1000 années, nous avons vu que la France a failli plusieurs fois disparaître, comme il s'en est fallu de peu que nous ne fussions pas français. La nouvelle dynastie était elle-même bien fragile. Quand Hugues mourut, il venait tout juste de faire reconnaître son titre de roi par les grands feudataires, titre qui ne lui donnait sur eux qu'une supériorité morale. Il avait même dû défendre son domaine contre ses voisins. Ces guerres de province à province et de clocher à clocher étaient une des désolations de l'anarchie féodale. Au comte de Périgord, qui s'était emparé de sa ville de Tours, Hugues ayant fait demander par un héros « Qui t'a fait comte ?» s'entendit répondre « Qui t'a fait roi ?» Les Robertiniens avaient mis 100 ans à s'élever au trône. Il leur faudra encore 100 ans pour qu'ils soient tout à fait solides. Supposons, chez les descendants de Hugues, des morts imprévues et prématurées, qui auraient remis la couronne, au hasard de l'élection, supposons de trop longs règnes, achevés dans la faiblesse sénile, le roi vieillard perdant le contact avec ses contemporains et sa longévité troublant l'ordre régulier des générations, la maison capétienne disparaissait. En tout cas, elle n'eût pas déployé ses qualités. À tous les égards, son succès tient à ce qu'elle a été d'accord avec les lois de la nature. La France avait l'instrument politique de son relèvement. Mais quelle longue tâche à remplir! Les Capétiens n'allaient pas, d'un coup de baguette magique, guérir les effets de l'anarchie. Le territoire national restait morcelé. Il faudrait des siècles pour le reprendre aux souverainetés locales. L'absence de gouvernement régulier avait causé bien d'autres maux qui, eux non plus, ne seraient pas guéris en un jour. L'écroulement de la monarchie carolingienne avait produit les effets d'une révolution. Presque tout le capital de la civilisation s'y était englouti. Les famines, les épidémies, se prolongèrent jusqu'au siècle suivant. Les conditions de la vie étaient devenues si terribles qu'elles ont donné naissance à la légende d'après laquelle les hommes de ce temps-là auraient attendu la fin du monde et, croyant que l'an 1000 ne pouvait pas être dépassé, auraient, dans une sorte de folie collective, renoncé au travail et à l'effort. On a exagéré, on a généralisé abusivement quelques passages de vieilles chroniques. La vie ne fut interrompue nulle part. Mais les hommes avaient beaucoup souffert. Il en resta un grand mouvement mystique, tout un renouveau de l'esprit religieux. L'Église en profita pour imposer les règles qui limitaient les guerres privées et le brigandage. Ce fut la trêve de Dieu. En même temps, la chevalerie était instituée. Les devoirs de l'homme d'armes, l'honneur du soldat. Ces idées étaient en germe dans la féodalité, fondée sur l'idée de protection. L'Église les exalta et les codifia. Bientôt, ce renouveau de la vie spirituelle donnera naissance aux croisades, dérivatifs puissants, par lequel l'Occident, depuis trop longtemps replié sur lui-même, enfermé dans les horizons bornés de sa misère matérielle et politique, préparera sa renaissance en reprenant contact avec le monde méditerranéen et l'Orient, avec les vestiges de l'Antiquité et d'une civilisation qui ne s'oubliait pas. Fin du chapitre 4.